gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute Armand Dubois au micro. Pendant quelques années, s'est consacré à un projet majeur, un projet de construction domiciliaire dans un cadre de vie naturel et enchanteur en Estrie. Mais on n'oublie pas la chanson aussi facilement, même si certains diffuseurs ont, eux, oublié l'auteur-compositeur-interprète. Ils décident donc de revenir anonymement avec un album-projet, le gars là, faisant le pari qu'on s'attardera au contenu en suscitant l'envie de connaître cet inconnu ayant pourtant des années de métier. Avec grand plaisir, on retrouve Luc Cousineau qui est avec nous en studio. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Vous avez passé une bonne semaine?
Absolument.
Oui, vous avez été constructeur. Ça, c'est étonnant.
c'est assez fou, hein? Moi, il y a des moments, hein, je me demande pourquoi je prends ce sentier-là sans trop me poser de questions. J'avais une insatisfaction dans ma maison de campagne. Je trouvais que les voisins s'approchaient de plus en plus. C'est curieux, mais c'est parti comme ça. Je me suis dit, je vais me chercher un endroit plus isolé, où il y avait plus de nature et tout. Et puis, je trouvais rien. Jusqu'au jour où, par un hasard, un ami m'a parlé d'une forêt qui était magnifique devant le Montford. Je suis allé voir ça, 255 ans. Puis je me suis dit, moi, je veux vivre ici. Il y avait vraiment une vibration dans cette forêt-là. Là, je sentais vraiment quelque chose. Puis je me suis dit, mais c'est sûr que je ne peux pas acheter ça. Je n'ai pas les moyens, ça coûte des fortunes. Puis là, de fil en aiguille, il me dit, peut-être faire un projet domicile. J'ai aucune idée comment cela se ferait. Mais faire un projet domicile.
Vous jamais... êtes improvisé contracteur.
Complètement. L'avantage que j'avais, c'est que je suis designer. J'ai fait un cours de design, moi, dans ma vie aussi, à travers...
La philosophie mène à tout.
Mène à tout. J'ai fait un cours de design parce que jeune, je voulais être architecte. J'ai été happé par la musique, mais en fait, je voulais être architecte. En faisant mon cours de design, ça satisfait un côté, être capable de dessiner des plans, tout ça. Alors, il y avait ce côté-là qui me disait, tu sais, je pourrais trop travailler ça. Puis, je suis entré dans ce projet-là. Il a fallu que j'achète des camions, des pelles, que j'apprenne tout sur le métier. Il n'y avait rien de fait. J'ai dessiné le logo, travaillé avec les ingénieurs, travaillé. Oh, c'était une aventure. Quand j'ai acheté la forêt, le soir couché avec ma femme, on avait deux yeux grands ouverts, on m'a dit, qu'est-ce que je viens de faire? Un peu comme quand tu fais un album qui coûte trop cher. T'sais. Est-ce qu'on va en vendre?
Une véritable aventure.
Une véritable aventure, mais c'était un succès extraordinaire.
Et ce projet-là, c'est les Boisés de la Héronnière.
C'est ça, oui, les Boisés de la Héronnière. C'est, en fait, il y avait une héronnière au centre de cette forêt-là où je suis tombé littéralement sous le charme. Je voyais là un marais sur un kilomètre où il y a des orignaux, tu sais, avec un ruisseau au centre. Puis je me suis dit, oui, l'aventure, je le fais. J'ai foncé là-dedans.
Et ça a bien fonctionné.
Et ça a fonctionné à merveille. Personne n'y croyait. Des gens disaient, c'est un artiste, il va se planter. Et tout ça. Mais au contraire, deux ans et demi après, j'avais vendu 46 terrains. Tous des grands terrains de 3 acres avec un code architectural. J'avais vraiment créé des règles pour que ça soit beau, qu'on respecte l'environnement et tout ça. Et ça a marché. Plus j'ai mis des contraintes, plus les gens y venaient pour acheter des terrains. Et maintenant, je demeure là. Je me suis construit là. C'est mon unique résidence. Je suis en pleine forêt. Je ne vois aucune maison autour de moi. J'ai que le Montford devant moi. Et c'est là que j'ai écrit cet album-là, le gars-là.
Et vous avez trouvé votre voie en faisant la construction domicilière?
Oui, j'ai troqué la guitare pour la scie mécanique. c'était vraiment ça. Et évidemment, l'ennui est revenu, l'ennui de la musique, de cette création-là. Mais le projet avait une forme. J'ai fait beaucoup de créations dans ce projet-là en le faisant. Il y a de la création partout. Il n'y a pas juste en littérature, en cinéma. Oh. Il y a de la création, même un comptable à la limite pourrait trouver, en tout cas, peut-être en cherchant un peu, pourrait trouver une forme de création dans son métier.
Alors, comme un vieux chat de gouttière, diriez-vous, vous avez trouvé votre voix en gardant l'œil ouvert. C'est d'ailleurs ce que vous nous chantez dans cet extrait de votre dernier album. C'est peut-être moi, tout ça.
Oui.
Je fais tout à l'envers pour vivre à l'endroit. Je ne sais plus comment faire. Je suis bien, je suis mal. Je me sens à l'étroit dans ma peau d'animal. De bas basculer dans un autre univers. Je choisis la misère du vieux chat de gouttière qui garde un œil ouvert. Comme un drôle d'animal à la tête de bois, je pars en cavale au bout de mon émoi pour retrouver ma voix. Abois chassé de son terrier, ses petits menacés par elle ne sait trop quoi. Par un cri que le vent ne masque pas vraiment, par un but inconnu, un écho dans la rue. Que répète le vent? Que répète le vent? Que répète le vent? Je suis bien, je suis mal, je me sens à l'étroit dans ma peau d'animal. Au lieu de basculer dans un autre univers, je retiens ma colère quand je mords la poussière pour ne pas manquer d'air. Ça me prend quelquefois sans avertissement. La peur grand en moi comme l'eau d'un torrent dans lequel je me vois. Je crie mon désarroi dans un monde de sourds. Je regarde tout autour mais on ne m'entend pas. Soit qu'on ne m'a pas vu, soit qu'on n'écoute plus, ou qu'on n'écoute pas, on ne me répond pas.
Alors, c'est peut-être lui qui a exploré beaucoup, beaucoup de métiers parce qu'on est avec Luc Cousineau. C'est bien sûr un auteur, compositeur, interprète. Ça a été un contracteur, il vient de nous le dire. Vous avez touché aussi à la musique pour des publicités, oui, pour des thèmes d'émissions de télévision, oui, également. Beaucoup. Vous en avez fait,
oui,
plusieurs.
Ah oui, oui. Ah oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai touché à tout vraiment au niveau de la musique, mais jamais en poussant au maximum à l'exception de la chanson. La chanson a toujours été ma passion. Et je suis tombé dedans quand j'étais jeune. La première guitare que j'ai eue à 15 ans, la première chanson que j'ai essayé de chanter, c'était du Brassens. Et puis, bon, il y avait Félix. Et pour moi, là, c'était le plus beau métier du monde. Alors, évidemment, ça, c'est toujours resté.
Alors, on va écouter tout de suite un autre extrait. « Faut ce qu'il faut », Luc Cousineau, extrait de l'album « Le gala ».
D'être balloté. Je pars en voyage, je change de paysage. Je fais naufrage sur une île au large. Wow, wow, faut ce qu'il faut. Wow, 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 faut ce qu'il faut. Wow, wow, faut ce qu'il faut. Wow, 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 faut ce qu'il faut. Je laisse ma guitare, mon bateau, ma moto, ma chaîne stéréo. Je laisse vos complots, vos mots qui sonnent et vous mettent dans votre mauvais sort. Et mon chalet dans le nord, faut ce qu'il faut. Je vous laisse ma bonne humeur, ma mauvaise humeur, mes quelques livres en trop. Mes bouteilles de Bordeaux, ma nuit d'insomnie, ma marge de crédit. Assez, j'en viens. laisse mon agenda, le nom de mon avocat. Je vous laisse mes accroires, mes sauces à spaghetti, la neige sur le trottoir et mes fonds de tiroir. Faut ce qu'il faut. Je vous laisse mes calembours, je vous laisse mes mauvais tours, mon manteau de velours, mes câbles et l'allumage, mon assurance chômage, mes tickets de métro. Et sous zéro, oh, oh, faut ce qu'il faut. En voilà bien assez, j'ai envie de tout quitter. J'ai envie de tout laisser, c'est assez d'être balloté. Je pars avec celle qui m'a donné les ailes, belle demoiselle du septième ciel. Oh, oh, faut ce qu'il faut. Oh, 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 faut ce qu'il faut. Oh, oh, faut ce qu'il faut. Oh, oh, je pars avec celle qui m'a donné des ailes, la belle demoiselle du septième ciel. Wow, wow, faut ce qu'il faut. Wow, 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 faut ce qu'il faut. Wow, wow, faut ce qu'il faut. Wow, 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 faut ce qu'il faut.
Faut ce qu'il faut, il faut aussi beaucoup de courage, parce que là, vous allez nous raconter une histoire que vous n'attendiez pas. Un mois après la fin de la réalisation de cet album, est tombée une nouvelle qui vous a un peu assommé.
Ah, carrément. C'est, quand on est sorti, bon, l'album, on était avec le gars-là, évidemment, personne ne savait. Vous savez que dans les postes de radio, on pensait des fois que c'était Daniel Lavoie qui était le gars-là. On a parlé de Paul Piché. C'est incroyable, hein? Les gens du métier, là, ils pensaient que c'était ces noms-là. Il y en a plusieurs autres. C'est un peu comme à l'aveugle, on est moins bon, hein? Du vin à l'aveugle, là, c'est dur là, de vraiment dire c'est un Bordeaux. Quand on a la bouteille devant soi, ça va bien.
Ouais.
Et donc, le gars-là, comme on dit tout à l'heure, c'était vraiment pour me cacher, pour laisser aller les chansons seules. Et on s'en allait comme ça pour 8 mois, 1 an, là, nous, là, avec... Puis les gens, même les diffuseurs à Montréal, ça marchait bien. Ça marchait vraiment comme je pensais, la curiosité est allée. Ils savaient que c'était quelqu'un qui avait déjà écrit. Ils voyaient bien.
Mais on n'était pas capable de mettre vraiment un nom.
Non, puis j'avais tout caché, hein, les maisons d'édition.
Vous aviez même changé le nom de votre compagnie de disques.
Complètement, la maison d'édition, la même chose. J'avais quelqu'un qui prenait les rendez-vous. Martine, qui faisait mon pistage radio, ne m'avait jamais rencontré. Là, elle ne savait pas qui c'était, le gars-là. Il n'y a personne... J'étais vraiment gari de la chanson québécoise de Laval, là, tu sais. D'ailleurs, j'avais pris un peu d'exemple là-dessus. Et puis, quand un mois après avoir fini l'album en studio, j'ai commencé à avoir un problème dans les mains. Et de plus en plus, c'était difficile, la guitare. Et quand on a fait le clip, je me souviens qu'on arrêtait le tournage à tous les 15 secondes parce que je n'étais plus capable de jouer. Et puis, quelques semaines plus tard, je n'étais plus capable de jouer du tout. Et depuis ce temps-là, évidemment, et c'est là qu'on a appris, qu'on nous a annoncé le diagnostic d'une maladie incurable, en principe, qui s'appelle Lou Gehrig, communément. Et c'est
du nom du joueur de baseball.
Oui, c'est ça, qui jouait pour les Yankees en 1944, dans ces coins-là. Et c'est sclérose amyotrophique...
Latérale,
c'est voilà. Ça. La SLA, qui est une maladie dégénérative musculaire. C'est les neurones qui musculaires, moteurs, qui nourrit plus le muscle. Alors, là, ils sont comme étouffés, ils meurent.
Et ça, on vous apprend ça un mois après avoir terminé votre album?
Oui. Bien, au début, je pensais que j'avais un problème mécanique dans le dos, tout ça. Je me dis, parce que je fais beaucoup de choses, moi, à la campagne, des belles folies, là. Je pousse fort, je travaille fort, je fais encore de la scie mécanique, j'ai des tracteurs. Puis pour moi, la forêt, c'est bien important. Alors, je travaille beaucoup dans ma forêt. Je me dis, probablement que je me suis fait quelque chose. Alors, j'ai retardé avant d'aller consulter médicalement. J'allais... Et à un moment donné, un physiatre m'a dit, un physiothérapeute, c'est-à-dire, m'a dit, je pense qu'il faut vraiment qu'il faut aller voir là, un neurologue, hein. Parce que là, la force n'était plus là et tout. Puis là,
incapable de jouer votre guitare.
Incapable déjà. T'sais, mais moi, j'en faisais pas un deuil à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression que j'avais un problème qu'on réglerait, n'ayant jamais été malade. Puis j'étais en bonne santé un mois avant. Là. Puis l'album, j'étais content. Puis l'idée du gars-là, j'étais content. Et quand on a eu le diagnostic, là, le neurologue nous a carrément, après les examens, là, poussé, là, très, très technique, là, il nous a annoncé comme ça, là, en vrac... C'est Lou Gehrig, c'est une maladie dégénérative, mortelle, vous allez mourir tout de suite. Ça a été ça, ma femme. Et tout ça, c'est un entretien de 10 minutes, là. Et puis là, j'ai posé des questions un peu, puis est-ce qu'il peut avoir une erreur, tout ça, non, non, tourne en rond, là, c'est mon diagnostic, c'est Lou Gehrig. Prenez un rendez-vous, on va refaire les examens dans 6 semaines. J'ai dit, c'est ça qu'il fallait démontrer ou quoi? Il dit oui. Puis on s'est retrouvés dans le stationnement du CHU, comme ça, seul, avec la mort au bout et la dégénérescence complète de... C'était excessivement dur. Moi, je me dis que quelqu'un qui est pris seul dans la vie, à mon âge, qui a un appart, puis bon, puis qui soit un diagnostic comme ça, il peut aussi bien s'agréer à l'eau. Là. Il y a aucun. Puis
on n'a pas tenté dit, d'amoindrir, de vous préparer au diagnostic.
Bien, il aurait pu dire qu'il y en a qui, effectivement, vivent depuis. Ça fait 10 ans qu'ils l'ont. Mais ça a été draconien. En 2 et 5 ans, vous allez mourir étouffé. C'est carrément ce qu'ils nous ont dit, ce qu'il m'a dit le neurologue. Il aurait pu. Puis par après, j'ai bien vu là, qu'il y en a d'autres qui se sont battus. Puis il y a des gens, il y a même un guitariste australien, ça fait 20 ans qu'il l'a là. Puis il rejoue de la guitare. Donc, il y a d'autres choses. Et ça m'a tellement fâché qu'avec des amis, on a commencé à ouvrir les rideaux de la médecine parallèle pour aller voir ailleurs. Mais ça a fait qu'en entrant là-dedans, je me suis dit, la seule façon que j'y arrive, c'est de croire que je peux m'en sortir, moi, au départ. Parce que moi, j'ai encore envie de vivre, puis j'ai encore envie de faire de la musique. Alors, j'ai pas fait le deuil complet de la guitare. Je me suis dit, on verra bien, on va se battre pour commencer. Mais comme la médecine, puis il peut rien, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, nous, on va y aller dans le parallèle. Et je suis allé.
Mais là, il y a des voies qui s'ouvrent. Par exemple, les recherches sur les cellules souches ouvrent la voie à beaucoup d'espoir. Bien sûr, on est au balbutiement de tout cela, mais il y a quand même des percées importantes.
Il y a de la recherche qui se fait. Mais c'est ça, c'est qu'il faut gagner du temps. Mais gagner du temps en perdant ses moyens physiquement, c'est excessivement difficile. Alors, il faut vraiment entrer. Évidemment, c'est 24 heures à la fois, ça, c'est clair. Il faut vivre ça au jour le jour. Et s'installer dans un combat. Et vraiment s'installer dans un combat. Et ce combat-là, il va porter fruit s'il y a une croyance personnelle là-dedans. Puis il ne s'agit pas de tomber là, dans l'euphorie ou dans le déni. Là. Elle est là, la maladie, puis je tire au poignet avec elle, ça c'est clair. Mais moi, j'ai lu beaucoup, là. J'ai fait énormément de recherches. J'ai lu des livres écrits par des grands neurologues qui, eux, sont allés dans la médecine parallèle parce qu'ils ont compris quelque chose. Et la plupart disent que les médecins devraient avoir une année de plus en cours, là, avoir une année où ils devraient étudier l'humanité un peu, là. Travailler dans ce sens-là. Parce que ceux qui s'en sortent et où les médecins disent, ben on n'a pas d'explication, c'est un miracle, c'est pas un miracle. C'est moi, je dis, demandez-donc à ces gens-là, j'ai tellement lu de témoignages, demandez-donc à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fonctionné? Comment ils ont pensé? Qu'est-ce qu'ils ont lu? À quoi ils ont cru?
La pensée positive peut aussi
la
ouvrir.
Méditation, ouais. La pensée positive, se remettre en santé, réinstaller son corps dans... Nous, moi, je mange que bio maintenant. C'est sûr que j'ai fait un virage. J'ai une naturopathe qui travaille avec nous. On fait de l'hyperbole, on fait... Bon, et c'est sûr qu'il faut aller dans... Il faut s'aider parce que la médecine n'a rien. Mais il faut lire,
Il suffit souvent de peu de choses pour retrouver le moindre espoir. C'est aussi le titre de, pour moi, la plus belle chanson des Alexandrins. Je l'ai redécouverte en préparant cette émission. Il suffit de peu. J'espère que ce sera pour vous aussi un plaisir de la réentendre.
Tout nous faisait
Les Alexandrins, il suffit de peu. Luc Cousineau, qui faisait partie de ce groupe, est avec nous et nous parle évidemment de cette maladie SLA. Vous savez qu'entre 2500 et 3000 Canadiens âgés de plus de 18 ans vivent actuellement avec cette maladie. On diagnostique 2 nouveaux cas par 100 000 personnes chaque année. Et on dit que la SLA, donc la sclérose latérale amyotrophique, peut frapper n'importe qui, indépendamment de l'âge, du sexe et de l'origine ethnique. Et dans au moins 90 % des cas, la SLA frappe des personnes qui ne possèdent aucun antécédent familial de la maladie. C'était le cas pour vous aussi.
Absolument.
Mais vous allez vous battre, c'est ce que vous nous dites. Et il y a quand même des possibilités de pouvoir explorer des voies pour tenter de contrer cette maladie sans être dans le déni.
Sans être dans le déni, absolument. Il y a une chose fondamentale. En tout cas, dans mon cas, moi, je suis très chanceux. J'ai des gens qui m'aiment, qui m'entourent. J'ai une femme extraordinaire qui endosse ce combat-là totalement. Je pourrais être seul aussi, là. Mes enfants, j'ai des amis qui me supportent, mais sans pitié, là. Vraiment... Qui m'accompagnent dans ce combat-là. Puis si j'ai envie de leur dire un peu, quelquefois, ma détresse, ils m'écoutent. Et je leur en suis tellement reconnaissant.
Donc, la compassion, vous êtes entouré de compassion.
Ah oui, puis je crois qu'on gagne de cette seule façon, parce qu'un combat où tu es perdant au départ, tu sais, c'est... Oh non, l'amour... Ça aussi, c'est galvaudé, ce mot-là, mais là, je le comprends vraiment.
Mais c'est étonnant parce que tantôt, on a parlé de relations, et la semaine dernière aussi. Et malheureusement, il faut souvent passer par des diagnostics comme celui qui vous est tombé dessus. Mais pour redécouvrir la relation entre les êtres humains, à quel point elle peut être riche et profonde?
Riche et profonde et indispensable. À mon avis, c'est indispensable. Et le problème est là en ce moment dans nos sociétés. Il n'y a plus de relations comme ça. C'est sûr que les gens qui sont malades, qui sont atteints d'une grosse maladie comme la mienne ou d'autres, perçoivent la vie différemment. Automatiquement, tu as un regard bien différent que quand tu es en pleine santé et qu'il n'y a pas de problème. Puis que moi, je n'aurais jamais cru me faire happer par une maladie, un tel truc, qui a fait que j'ai été obligé de me dénoncer comme le gars-là. Parce que là, je me suis dit, j'ai dit à mon entourage, j'ai dit, je peux pas cacher mon identité d'auteur-compositeur et cacher une maladie. Mm-hmm. Je m'en sortirai jamais, je guérirai pas. J'ai dit, là, maintenant, je suis obligé d'ouvrir à tout le monde. T'sais. Mais là, la communication que j'ai avec les gens qui m'entourent, ceux qui m'appellent, ceux qui veulent me voir, je vois vraiment là, une vraie communication. Et quand la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est peut-être moi, c'était ça l'idée de cette chanson-là. C'était vraiment, on dirait qu'on ne m'écoute plus, peut-être qu'on ne m'entend pas. à la fin de la chanson. Je disais, c'est carrément ça, c'est l'individu dans la société. Il ne sait pas, puis il se dit, ben, c'est peut-être vous qui avez aussi la même chose. Peut-être
mais
moi,
c'est un drôle de moyen de se faire entendre que d'avoir à apprendre qu'on est atteint d'une telle maladie. On n'aurait pas souhaité cela pour personne.
Non, c'est gros, c'est énorme.